treasure, my little stranger, 'cause I feel you and you feel me. Give me the wave, my little DJ, 'cause you and me are on the way. In EAGJET FM, pour qui je suis honnête, écoute la barre, j'ai la fortune russe.
Bergerus 1022, surcroyance. Parce que bon, hier on a parlé du surhomme, les surmachins, les surtrucs, les surbidules, les surchaudes, les surmachinouettes. Ah, téléphone. Donc je me suis dit, la croyance, ça suffit pas, il faut une surcroyance pour réussir à démystifier, si on peut dire, ou dématérialiser l'objectivité présente de l'occidentalisation. Ce qui veut dire devenir moins matériel. Il faut une surcroyance. Alors nous avons pu, comme j'ai dit, voir hier un lien entre le Zarathoustra de Nietzsche et la philosophie islamique. Eh bien aujourd'hui sera le chapitre Zarathoustra et la religion iranienne, numéro 13, de l'ouvrage Histoire des croyances et des idées religieuses de Mircea Eliade, publié en 1976. Donc encore une fois, malgré moi, je vais vous lire tout ce que j'ai pu souligner et annoter dans ce chapitre, Zarathoustra et la religion iranienne, et je vais le coupler avec plusieurs passages de trois autres livres, dont Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, qui est pour moi, bon, c'est mon favori, parce que c'est le premier que j'ai lu de Nietzsche, il a une histoire en plus personnelle. Ensuite, je parlerai de L'homme de lumière dans le soufisme iranien par Henri Corbin, et un petit passage de Sadeh Gadayat, La chouette aveugle, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Je l'avais pas lu, en fait. Le Monde, le journal, en parlait, donc j'avais été chercher des bouquins, mais celui-là, il n'était pas disponible. Et là, maintenant, je l'ai récupéré. Et oh, c'est chiant, ce téléphone. Hein. Et donc, je vais vous lire un petit passage. Mais après, quand je me rappelle l'article du Monde, en fait, on comprenait rien, quoi. C'est pas du tout ça, le livre. Faut se méfier des médias, hein. Comme j'ai dit hier, faut vraiment se méfier des médias, des acteurs, des réalisateurs. C'est de l'illusion, tout ça. Bon, allez, hop, j'y vais. C'est parti, je commence. Le chapitre Zarathoustra et la religion iranienne. Donc là, les énigmes, le premier sous-chapitre. On approche le sujet avec le plus vif intérêt, car on connaît d'avance la contribution iranienne à la formation religieuse de l'Occident. Car on connaît d'avance la contribution iranienne à la formation religieuse de l'Occident. Alors dit comme ça, moi, avec l'émission que j'ai pu faire hier, ouais, ok, je comprends. Qui disait quoi, déjà? Oui, qu'en fait, le surhomme, disons, l'homme parfait pour les philosophes islamiques, enfin, dans les... Ouais. C'est le surhomme de Nietzsche. J'avais fait le bon truc, en fait. J'avais réussi à trouver et j'ai eu la confirmation avec ce chapitre. D'ailleurs, je vais tout de suite vous lire le passage de Henri Corbin, de L'homme de lumière dans le soufisme iranien, son chapitre Les sept prophètes de ton être. Donc, Semnani, je vais vous éviter les noms propres parce que je les connais pas forcément, je sais pas à quoi il retourne, et c'est pas forcément non plus important dans ce que je vais vous lire. Donc Semnani discerne la même menace imminente d'un dérèglement de la conscience. Il faudra au soufi l'assistante d'un chaïk expérimenté pour lui éviter l'abîme et le conduire au degré qui est en vérité le centre divin de son être, où éclot son moi spirituel supérieur. sinon l'énergie spirituelle étant tout entière concentrée sur cette éclosion. Il arrive que le moi inférieur soit laissé en proie aux pensées extravagantes et aux délires. Alors le moi inférieur, ça reprend ce que disait Nietzsche sur l'homme primitif. C'est pas le surhomme, l'homme inférieur. C'est l'homme primitif pour Nietzsche. Mais l'homme primitif a besoin, c'est à eux qu'il s'adresse. Nietzsche, j'ai bien dit hier. Le moi inférieur. Et là, le moi inférieur serait le moi commun, le moi primitif de Nietzsche. Sinon, l'énergie spirituelle étant tout entière concentrée sur cette éclosion, il arrive que le moi inférieur soit laissé en proie aux pensées extravagantes et aux délires. Donc, la matérialisation, ça c'est des délires. Extravagantes, ça va avec, quoi. La balance est alors totalement déséquilibrée par un retournement fatal. Le moi supérieur, à peine né, succombe à ce qui était dépassé et périt dans son triomphe. C'est génial. Le moi supérieur, à peine né, succombe à ce qui, était dépassé et périt dans son triomphe. Et cela est aussi vrai dans le domaine moral que pour la perception métaphysique du divin et de l'être. C'est une rupture prématurée du processus de croissance, une initiation manquée. On pourrait dire que le péril mortel, de part et d'autre, est la situation même devant laquelle fut mis l'Occident lorsque Nietzsche se fut écrié « Dieu est mort ». Quand tu arrives à un moment, tu arrives au top, quoi. Et là, le top, il faut que tu redescendes pour redescendre et remonter, en fait. Donc là, c'est un peu ce qui est écrit. T'es obligé de... Là, il met comment ? Et cela est aussi vrai dans le mémoire. Voilà, dépassé et péri dans son triomphe. T'arrives à un top, t'arrives à une. Tu vois, tu lèves la jambe, et là, tu vas. Ta première jambe est sur la marche du dessus, donc tu lèves, et l'autre jambe, le temps que tu la lèves, là, t'es dans ton triomphe, mais il faut que tu la reposes. Il faut qu'elle et dès qu'elle touche la marche, les deux sont dessus. Mais là, il faut pas oublier de contrebalancer sur l'autre jambe pour repartir à la marche du dessus, quoi. J'illustre ça comme ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'était Henri Corbin, l'homme de lumière dans le soufisme iranien. Je fais souvent référence à ce livre, que j'aime beaucoup. Donc, pour continuer... Avec Mircea Eliade, l'articulation de plusieurs systèmes dualistes. Attends, rappelons seulement le plus. Parce que. Nombre d'autres idées religieuses ont été découvertes, revalorisées ou systématisées en Iran. Rappelons seulement le plus considérable, l'articulation de plusieurs systèmes dualistes, entre parenthèses dualisme cosmologique, éthique, religieux, le mythe du sauveur, l'élaboration d'une eschatologie optimiste proclamant le triomphe définitif du bien et le salut universel, la doctrine de la résurrection des corps. En ce qui concerne la contribution personnelle de Zarathoustra, alors Zarathoustra, c'était un prophète, Zoroastre, okay, qui était Mazdéen, le bien et le mal, quoi. Tu vois, c'est une lutte entre le bien et le mal. C'est plus terre à terre qu'autre chose. Enfin, c'est pas que d'autres religions, je veux dire. En ce qui concerne la contribution personnelle de Zarathoustra dans l'invention ou la revalorisation de ses conceptions religieuses, les opinions des iranisants divergent et tendent à s'exclure mutuellement. Zarathoustra est considéré comme un personnage historique réformateur de la religion éthique traditionnelle. Alors lui, ce serait le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. La religion de Zarathoustra représente uniquement un aspect de la religion iranienne, le mazdéisme, comme je vous disais à l'instant. Le prophète Zarathoustra constituant la religion mazdéenne, et voilà. Ensuite, alors, il serait inutile de continuer les épreuves, les victoires et les miracles de Zarathoustra, suivent le scénario exemplaire du sauveur en train d'être divinisé. Retenons l'insistante réitération de deux motifs caractéristiques du mazdéisme. La lumière surnaturelle, d'où le livre de Corbin, l'homme de lumière dans le soufisme iranien, et le combat contre les démons. L'expérience de la lumière mystique et la vision extatique sont attestées également dans l'Inde ancienne. Et là ouais, j'ai annoté soufisme, je voulais reprendre ce bouquin. Mais là, combat contre les démons, si c'est la lumière intérieure, Nietzsche avait des démons en lui. Les démons, les démons incompris, justement, de l'homme, tel qu'il peut l'écrire, inférieur. De l'homme primitif, du commun. L'homme est libre de choisir le bien ou le mal. Alors j'ai lu ça, je me suis dit, là, faut que j'aille chercher Nietzsche, par-delà le bien et le mal. Et j'ai ouvert, il y a un truc que j'avais souligné à l'époque. Donc c'est au chapitre 40 de Nietzsche. Tout esprit profond a besoin d'un masque, bien plus un masque se forme perpétuellement autour de tout esprit profond. Grâce à l'interprétation continuellement fausse, c'est-à-dire plate, donnée à toutes ses paroles, à toutes ses démarches, à toutes les manifestations de sa vie. Donc là, je pense qu'il parlait de lui un petit peu, que les gens ne comprennent pas. Et comme je l'ai dit, le professeur Schmidby en a parlé récemment, il disait « faut mieux être un peu compris que compris pas du tout ». Donc là, il y a avant, il jugeait que... Il y en a qui ne comprennent pas, quoi. Et une interprétation continuellement fausse, comme il est écrit. Donc, oui, ça fait écho à toute l'œuvre. Ce que je disais à l'instant, des démons qui le rendent incompréhensible, entre guillemets, par le commun, qui ne se pose pas de questions. Forcément. Qui ne se pose pas forcément de questions, je veux dire. Donc Zarathoustra reçoit la révélation de la nouvelle religion directement d'Ahura Mazda. L'homme est sommé de suivre l'exemple d'Ahura Mazda, mais il est libre dans son choix. Il ne se sent pas l'esclave ou le serviteur de Dieu. D'où là l'amalgame des jeux. On a plein de possibilités de faire quoi que ce soit, plein de trucs à tout moment. Et il faut, moi, depuis mon point de vue, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il faut suivre son instinct. Donc, quand le cœur s'emballe, tu vois, il faut aller dans cette direction. Mais il y en a plein qui ne le font pas et qui n'arrivent pas à s'écouter peut-être ou qui vont voir la facilité, qui vont préférer prendre un pistolet et aller braquer une banque. Moi, je suis très américain. Ah ouais, mais je suis vachement Hollywood, tu vois. Donc, je donne des exemples. Pour, comme ça, tout le monde comprend ce que je veux dire parce que tout le monde est un peu hollywoodianisé. La théologie de Zarathoustra n'est pas dualiste dans le sens strict du terme. Alors, en somme, le bien et le mal, le saint et le démon destructeur, procède d'Ahura Mazda, de la religion mazdéenne. Mais puisque Angra Mainyu a librement choisi son mode d'être et sa vocation maléfique, le seigneur sage ne peut pas être considéré comme responsable de l'apparition du mal. Alors le seigneur sage, de ce que j'ai lu, c'est un peu le messie, quoi. Le sage. D'autre part, Ahura Mazda, dans son omniscience, savait dès le début quel sera le choix de l'esprit destructeur, et pourtant il ne l'a pas empêché. Ce qui peut signifier soit que Dieu transcende toutes sortes de contradictions, soit que l'existence du mal constitue la condition préalable de la liberté humaine. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut tout. Et là, j'ai annoté équilibre par le déni, en fait, aussi. Le déni le déni du bon. Tu vois, quand je vous disais, c'était amalgame des jeux. T'as plein de choix qui vont se proposer à toi. Et tu vas pas forcément prendre le bon. Mais parce que tu ne dois pas le prendre, peut-être, pour l'équilibre cosmique. La séparation primordiale entre le bien et le mal est la conséquence d'un choix. Cette rénovation comporte le jugement de chaque être et implique la punition des méchants et la récompense des justes. Alors ça, c'est très catholique aussi, ça, par contre. Il est permis de conclure que le prophète s'efforcera d'abolir l'idéologie archaïque du cycle cosmique... De conclure que le prophète s'efforcera d'abolir l'idéologie archaïque du cycle cosmique périodiquement régénéré et proclama l'escaton imminent et irrévocable décidé à effectuer... par Aura Mazda. Et là, c'est ce que je vous ai dit il y a peu de temps. Si, le cycle, si on veut changer de cycle, il faut se poser des questions pour que stopper ce cycle intérieur qui nous emballe, quoi. Il faut vraiment changer les habitudes aussi, tu vois. Et eux, ils parlent d'eschatologie. On tue tout le monde et on recommence, quoi. Mais en un sens, c'est oui, c'est mourir. Mourir pour revivre, renaître, mais là, maintenant, quoi. Dans notre vie actuelle. C'est métaphysique, tout ce que je raconte. Certains vont dire que c'est religieux, peut-être aussi. Oui, sûrement. Mais moi, de la façon dont laquelle je le dis, ce n'est pas religieux. C'est plutôt survivance de soi, tu vois, pour partir de tout ce qu'on peut dire autour de nous, même politiquement. On fait des manifs, on fait des trucs, mais ça sert à rien, parce que ça fait partie du cycle. Ça sert à rien, c'est intérieurement la révolution qu'elle doit... Mais ça fait des lustres que je le dis déjà. Donc je suis hyper content quand je tombe sur des chapitres comme ça, des livres qui sont fameux, quoi. Avant, je me refusais, il y a de ça 10 ans, 15 ans, je me refusais de lire des livres sur les croyances et tout, et en fait, bah, tout est là, quoi. Des grands penseurs ont grand pensé avant. Bon, super. En somme, le point de départ de la prédication de Zarathoustra est la révélation de la toute-puissance, de la sainteté et de la bonté d'Ahura Mazda. Le prophète la reçoit directement du Seigneur, mais cette révélation ne fonde pas un monothéisme. Ce que proclame Zarathoustra en le donnant comme modèle à ses adeptes, c'est le choix de Dieu et des autres entités divines. En choisissant Ahura Mazda, le Mazdéen choisit le bien contre le mal, la vraie religion contre celle des Daivas. Ça doit être le mal. Par conséquent, tout Mazdéen doit lutter contre le mal. Aucune tolérance à l'égard des forces démoniaques incarnées dans les Daivas. Cette tension ne tardera pas à durcir en dualisme. Le monde sera divisé en bon et mauvais et finira par ressembler à une projection sur tous les niveaux, cosmique et anthropologique, de l'opposition entre les vertus et leurs contraires. Une autre opposition est à peine indiquée, mais aura un grand avenir dans la spéculation iranienne. Celle entre le spirituel et le matériel, entre la pensée et le monde osseux.
Love. I
On a pu écouter Musicians Like Scum par Père Ubu. Ok, let's go. Donc on continue. Zarathustra parvient à préciser la manière avec laquelle Ahura Mazda intervient dans le monde. Et éclaircit également comment le Seigneur, à travers ses archanges, peut... On est dans la religion soufiste. Donc, iranienne soufiste, donc musulmane. Donc il y a les archanges aussi, là. Enfin, j'ignore, mais j'ai lu ça. Dans le bouquin que je vous ai lu hier, il parlait d'ange. L'archange peut aider et soutenir les fidèles. Le fait que le prophète appelle son Dieu sage, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il exalte l'importance de la vérité, qu'il évoque continuellement la bonne pensée, accuse la nouveauté de son message. Ça, c'est le propre des messies. Quelque chose de nouveau est indiqué. Il ne s'agit pas, certes, d'une science abstraite dans le sens moderne du terme, mais de la pensée créatrice qui découvre et à la fois construit les structures du monde et l'univers des valeurs qui est leur corps relatif. De ce point de vue, on peut comparer l'effort spéculatif de Zarathustra aux méditations et aux découvertes des sages évoqués dans les Upanishads. Bon, je ne sais plus ce que c'est, Upanishads. Qui ont radicalement transformé les conceptions védiques du monde et de l'existence humaine. C'est excellent. On arrive à un top, top de chez top. Alors, Ahura Mazdi est par excellence le professeur de machin, mais cette flamme divine jaillit également du front de Mitra. Et Mitra, je crois que c'est l'équivalent. Je vais pas le dire, parce que je sais pas. Mitra est comme une lumière solaire émane de la tête des souverains. Cependant, tout être humain possède son Varena. Et au jour de la transfiguration, de la rénovation finale, la grande lumière semblant sortir du corps brillera tout le temps sur cette terre. Chacun, et là le chacun, chaque être, tout être humain, chacun des êtres humains est en gros est le surhomme de Nietzsche, peut-être le surhomme de Nietzsche, mais encore faut-il qu'il se pose des questions, qu'il se demande, qu'il se... Pas quelle paire de chaussures j'ai mis ce matin, ben non, pas ces questions-là, non. Mais pourquoi? Pourquoi c'est aussi, ça c'est un peu bateau, mais d'autres questions. Bah, quoi que le pourquoi, c'est souvent la genèse, c'est souvent l'étincelle, quoi. Il est difficile de préciser si cette conception eschatologique du culte était déjà entièrement... Attends. En absorbant rituellement le Haoma, le sacrificateur surpasse sa condition humaine, se rapproche d'Ahura Mazda et anticipe in concreto la rénovation universelle. Il est difficile de préciser si cette conception eschatologique du culte était déjà entièrement formulée à l'époque de Zarathustra. Mais elle était certes implicite dans la fonction du sacrifice chez les Indo-Iraniens. Et alors là, le lien, il est clair, quoi. Je me suis vraiment pas du tout planté. Hier, quand je vous ai parlé du le fagot électrique de Zarathoustra, je vous ai parlé de la religion islamique de Zarathoustra de Nietzsche. Mais tout ça, c'est lié. Et là, j'ai vraiment eu, encore une fois, avec ce chapitre, mais là, surtout que j'ai fait mon émission hier, et après, bah, je prends ce livre que je voulais lire, et je tombe sur ce chapitre. Paf. Jour, au hasard, et pam, je tombe dessus, quoi. C'est pour moi, à mes yeux, ce sont des signes, ce sont des... C'est bon, mec, continue, t'es sur la bonne voie. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que j'interprète. Selon la tradition, Zarathoustra fut tué à 77 ans par le touranien Bradvarch dans un temple du feu. Certaines sources tardives précisent que les meurtriers s'étaient déguisés en loups. La légende exprime admirablement la signification du destin de Zarathoustra, car les loups étaient les membres des sociétés d'hommes aryennes, si courageusement stigmatisés par le prophète. Et enfin, on retrouve les reflets de son plus beau mythe dans le Faust de Goethe. Et pour finir... Non, pour finir, non. Non. Ah si, bah non. Encore deux, trois trucs à dire quand même. Mais on s'écoute un morceau de musique ? Oh, allez ! Non. Si ? Non. Non ? Si ? Avant de continuer, je vais vous passer le passage dont je vous ai parlé de la chouette aveugle de Sadegh Hidayat, qui est perse, donc l'ancien Iran, aussi. J'en ai souligné pas mal, mais bon. Préoccupation futile, soit, mais qui, plus que n'importe quelle réalité, me tourmente. Ces hommes qui me ressemblent et qui obéissent en apparence aux mêmes besoins, aux mêmes passions, aux mêmes désirs que moi, ont-ils une autre raison d'être que de me rouler ? Sont-ils autre chose qu'une poignée d'ombre, créée seulement pour se moquer de moi, pour me berner ? Bon, peut-être un peu de paranoïa. Tout ce que je ressens, tout ce que je vois, ou alors déjà était-il surhomme et pas les autres comme il voit. Tout ce que je ressens, tout ce que je vois et tout ce que j'évalue. N'est-ce pas un songe inconciliable avec la réalité ? Je n'écris que pour mon ombre projetée sur la lampe, sur le mur. Il faut que je me fasse connaître d'elle. Elle perdue, je me retirerai tout à fait de la société des hommes, du cercle des crétins et des heureux. Je me réfugiais dans le vin et dans l'opium afin d'oublier. Donc là, bah, il reprend, et c'était un perse, enfin, tu vois, il était aussi dans le sang. Tu vois, ça reprend un peu tout ce que je viens d'expliquer. Donc je continue avec Mircea Eliade, Zarathoustra et la religion iranienne. Ce qu'il importe de retenir pour l'instant, c'est le fait que le roi iranien était responsable de la conservation et de la régénération du monde. Autrement dit, que sur le plan qui lui était propre, il combattait les forces du mal et de la mort, et contribuait au triomphe de la vie, de la fécondité et du bien. Et moi, ça, c'est carrément nietzschéen, quoi. Le bien, c'est Nietzsche, quoi. Zarathoustra attendait la rénovation universelle par le truchement de la bonne religion. En fin de compte, tout prêtre zoroastrien croyait qu'il anticipait par ses sacrifices la transfiguration eschatologique. On voit en quel sens le zoroastrisme a utilisé les valeurs archaïques du sacrifice. Zarathoustra avait proclamé une guerre sainte contre les forces du mal. La fonction rédemptrice de la bonne religion fut progressivement renforcée par la glorification de la puissance créatrice du rite. Puisque le but ultime était la régénération universelle, on a valorisé la fonction fondamentale cosmogonique du sacrifice. En effet, la rénovation eschatologique non seulement sauve l'humanité, mais la crée de nouveau en effectuant la résurrection des corps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faudrait qu'on... Moi, j'essaie de... Il faudrait qu'on le fasse maintenant, quoi, avant de mourir. Tu vois ? comme maintenant on a peur de la mort. Mais en fait, lui, il était dans un cycle aussi, parce qu'on n'a plus peur de la... Enfin, la mort, qu'on ait peur ou non, elle va arriver. Mais il faut dépasser ça et mourir dans sa vie et renaître dans sa vie. Tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est un peu l'Apocalypse, quoi, ce qu'il décrit. L'Apocalypse du Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, l'Apocalypse ? Enfin, biblique, quoi. Cela implique une nouvelle création. Non, je crois que c'est l'Ancien. Cela implique une nouvelle création indestructible, incorruptible. Comme l'annonce le Yasht, le monde matériel ne s'éteindra plus. Mensonge, le mensonge périra. En fait, il dit deux choses contraires. Dans le matériel, il y a du mensonge dans notre monde matériel. Et le monde matériel ne s'éteindra plus. Et le mensonge finira par périr. C'est-à-dire qu'à la fin, il va se bouffer tout seul. C'est ça qui... Je pense, j'interprète ça comme ça. Alors, on change de paragraphe. Paragraphe 111, le voyage de l'âme après la mort. Quant aux expériences de l'âme après la mort, on retrouve certains motifs familiers. La traversée d'un pont, l'ascension céleste, le jugement, mais aussi le thème de la rencontre avec son propre soi. Un poème relate que l'âme du juste reste auprès de son corps pendant 3 jours. Et la Daina du mort apparaît sous la forme d'une belle jeune fille rayonnante. Et puis bon. Il décrit que, en fait, retenons les traits caractéristiques de ce rêve. L'âme rencontre sa Daina, donc le mal, quoi. C'est-à-dire son propre soi, qui lui préexiste, aimable que j'étais, entre parenthèses, mais qui est en même temps le résultat de son activité religieuse sur terre. Tu m'as faite plus aimable. La Daina se présente sous une forme féminine archétypisée, tout en conservant une apparence concrète. Il s'agit certes d'une conception indo-iranienne, puisqu'elle se retrouve dans la Kochitaki Upanishad. L'âme de celui qui s'engage sur le chemin des dieux est accueillie parmi d'autres divinités. Elle traverse ensuite un lac et une rivière, pénètre dans une cité et arrive devant Brahman et l'interroge « Qui es-tu ?» On rencontre son propre soi et on demande « Mais qui es-tu » devant ton dhirna. Le mal, c'est peut-être pas le dhirna, je vous dis que c'est le mal, peut-être pas totalement. Il y a peut-être aussi un autre détail que je mets. Alors là, ensuite, ça c'est sympa. Ouais, j'ai presque fini. La montagne cosmique. En fait, le pont qui se trouve au centre du monde relie la terre au ciel. Les âmes passent devant Ahura Mazda et les Amesha Spenta. La séparation des bons et des méchants a lieu soit avant le pont, soit à son entrée. Quant au jugement de l'âme, dont parlent les textes et où les juges sont Mitra assistés, il est connu dans les gâtins. Il est d'ailleurs superflu dans le scénario, le passage du pont comparable à une épreuve initiatique constitue en lui-même le jugement, car, selon une conception assez générale, le pont s'élargit sous les pieds du juste et devient comme une lame de rasoir lorsqu'un impie l'approche. Les textes... Maintenant, c'est le dernier chapitre du paragraphe... le dernier paragraphe du chapitre... Les textes tardifs développent le parallélisme entre les fêtes du Nouvel An et la rénovation eschatologique, lorsqu'aura lieu la résurrection. Ce sacrifice eschatologique répète en quelque sorte le sacrifice cosmogonique. C'est la raison pour laquelle il est pareillement créateur, la résurrection et son corollaire l'indestructibilité des corps représentent un développement audacieux de la pensée eschatologique de Zarathoustra. Il s'agit en somme d'une nouvelle conception de l'immortalité. C'est l'histoire des cycles, en fait. Mais là, cette immortalité, moi, je vous la propose maintenant. Bon, c'est clair qu'on va mourir. Bon, ça, on ne peut pas être immortel. On peut être immortel métaphysiquement. Oui, notre âme est immortelle, de toute façon. Mais cette nouvelle immortalité qui est proposé, c'est réussir à revivre dans sa propre vie. Et comment faire passer un autre cycle? Comment faire se poser des questions? Comment faire? C'est facile? Pas forcément. Parce qu'après, il faut tout mettre en place pour que faire les bons choix, tout ça, mais en même temps, il y a l'équilibre. Mais pour que l'équilibre change, accepte cette nouvelle vision, cette nouvelle vie, il faut essayer. Mais on peut le faire personnellement, on s'en fout des autres. Là, si j'ai des personnes qui m'écoutent, bah, elles peuvent essayer. Moi, je le fais. Hein. Et je me porte bien, hein. J'aime beaucoup. Hein. J'ai pas peur de la mort. Bon, ça me ferait chier de mourir. Forcément. Bah, surtout que là, il y a la famille et tout. Bon. Mais en même temps, je me dis, si je suis amené à mourir, c'est que je dois mourir. C'est ça aussi. Je dois mourir pour revivre. Bon, on a mis la planète dans un sale état, donc j'ai envie de mourir justement une fois que tout le monde sera mort, quoi. Avoir une nouvelle vie. Enfin, que tout le monde sera mort. Ou dans la nouvelle civilisation, tu vois. Donc, combat du bien et du mal. Voilà.
C'est jet ou c'est rien. À quelle heure? Quand?